Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
C'est possible de mieux enseigner l'histoire autochtone dans les écoles? Je pense que tout le monde sait que oui et que ce serait même souhaitable. Un article qui a attiré mon attention dans le 24 heures. Aujourd'hui, on était avec Bruno Roch, qui est coordinateur des projets éducatifs au Conseil en éducation des Premières Nations. Monsieur Roch, bonjour.
Oui, Madame Peterson.
Bon, je veux qu'on se parle un peu de comment on enseigne l'histoire des Premières Nations, de la colonisation à nos enfants. Moi, j'en ai trois, des enfants. Puis souvent, j'ai l'impression que c'est un peu une patate chaude, là. Puis il y a vraiment une différence, hein, parce que, bon, j'en ai une de 14, une de 11, puis une de 6. Et même entre les deux plus vieilles, là, il y a eu une différence entre la façon dont ont été abordés certains thèmes en lien avec les Premières Nations là, dans leur cours d'histoire. Je veux qu'on se parle en premier lieu, M. Roch, de la réforme de 2017. À ce moment-là, là, qu'est-ce qui a changé?
En fait, dans la réforme de 2017, il y a eu quand même quelques changements, quelques gains qu'on a eus, je dirais, parce qu'on a fait partie d'une table de consultation. Là. En fait, même personnellement, j'ai représenté le Conseil en éducation des Premières Nations à la table de consultation. Puis de ça, on a soumis à peu près 70 recommandations, je dirais, de changement. Et de ça, oui, il y a eu des changements. Par exemple, le terme amérindien n'existe plus dans les programmes d'histoire maintenant, est remplacé par Première Nation.
Okay.
Maintenant aussi, on a beaucoup poussé le point que les pensionnats autochtones devaient être traités d'une manière plus en profondeur. Donc, c'est pas mal les deux gros points là, qu'on a réussi à aller chercher.
Mais quand on parle de traiter des pensionnats, comment on en parle aux jeunes de ces sujets-là? Est-ce qu'on en parle de façon suffisante? Est-ce que c'est approprié? Comment on enseigne ça en ce moment?
En ce moment, je pourrais pas vous dire. Je ne sais pas exactement comment c'est enseigné.
Ouais.
On sait comment c'est présenté dans le programme. On sait qu'il y a différents points qui sont traités sur l'éducation des Premières Nations au fil des années et entre autres au 20e siècle.
Hein?
Est-ce que c'est enseigné convenablement? Comme je vous dis, je ne sais pas, mais certainement que il y a certaines. Je sens quand même qu'au niveau des enseignants, il y a, comme vous dites, une patate chaude.
Ah, mais
c'est un malaise là, de parler de cette question-là qui est très, très délicate.
Ben ça dépend du prof. Là, ma fille est en secondaire 2, puis elle a une prof d'histoire pas mal allumée, puis elle parle de tout ça, là, puis elle utilise le mot génocide, puis tu sais, elle y va, là, tu sais. Mais je regarde, par exemple, ce qu'elle apprenait, ma fille, en 4-6e année, là, excusez-moi, là, puis je le dis comme c'est, là, elle se faisait enseigner un peu le folklore. T'sais, le folklore des Premières Nations, le genre, ils tissaient des paniers, ils vivaient dans des tentes, puis nommer les 11 Premières Nations, je veux dire, oui, là, mais il y a pas mal d'autres affaires là, auxquelles on devrait penser quand on pense aux Premières Nations, quand on enseigne l'histoire aux enfants.
Tout à fait. Puis, tu sais, il y a eu une réforme en histoire au secondaire.
Ouais.
Je dirais que le programme est beaucoup mieux qu'il était.
Mm-hmm.
Par contre, du point de vue du primaire, certainement qu'il y a beaucoup d'améliorations apportées là, parce que, comme vous le dites, c'est une histoire très, très folklorique. Qu'est-ce qu'on apprend au primaire? Puis moi aussi, j'ai un garçon de 10 ans,
qui
a regardé son cahier. Ce que j'ai vu, c'est Iroquois, Algonquin,
Maison-Long,
Tipi. Tu sais, ce que nous, on a appris, en fait, là. Puis, tu sais, le reproche qu'on pourrait faire au programme du primaire en univers social, là, c'est que la manière que le programme est fait est chronologique. Donc, nécessairement, on va commencer par le début et les Autochtones des années 1500. Est-ce qu'il y a de la place qui est faite convenablement pour le contexte actuel des Premières Nations au Québec au primaire? Peut-être pas assez.
Mais vraiment pas assez. Je veux dire, dans les livres d'histoire, on passe de la conquête britannique à la crise d'Oka, là, puis après ça, on parle comment on peut mettre en contexte cette crise-là quand on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant, comment on peut parler de réparation, comment on peut parler de décoloniser la pensée puis l'histoire au Québec. Je veux dire, t'sais, c'est quand même, ça devrait être dans les cartons. Puis, tu sais, quand on a trouvé les corps des enfants près des pensionnats de Kamloops et puis en Alberta un peu plus tôt cette semaine. Mes enfants, tu sais, dans l'auto, on écoute la radio, tu sais, on écoute les nouvelles, ils entendaient ça. Puis là, ils m'ont demandé c'était quoi. Ils m'ont dit c'est qu'est-ce qui s'est passé. Comment on explique ça à des enfants, là, cette violence-là, puis ce racisme-là? Je savais pas quoi dire, monsieur Rock. Je le savais pas. J'étais démuni.
C'était très malaise parce que malheureusement, ce qu'on a vu, ce que l'histoire démontre, je veux dire, qui est racontée par, je veux dire, le Québec et le Canada, oui. C'est le bon côté de l'histoire, malheureusement. Mm-hmm. Tout ce que les Premières Nations, les Inuits, ont subi depuis 400 ans, on dirait qu'on essaye de le cacher en dessous du tapis. Malheureusement, là, on a des histoires comme Cameroun, justement, qui sortent. Mm-hmm. Mais on se doutait bien qu'on s'est prévu, nous, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on le vit encore aujourd'hui, là, les chocs générationnels qui se sont faits. Là. Mm-hmm. Mais comment apprendre ça à nos enfants quand nous-mêmes, je veux dire, comme adultes, de façon générale au Québec, on ne connaît pas cette histoire-là. Puis c'est, vous avez tout à fait raison de vous sentir un peu mal à l'aise par rapport à ça.
Puis je me sens pas mal à l'aise de leur en parler, c'est important. Mais tu sais, par exemple, mon fils, j'ai commencé un peu à y expliquer, puis sa question c'était on était méchants, il y a 6 ans. Fait que tu sais, ça devient un gros sac de nœuds. Puis là, tu veux expliquer, puis tu sais, il y a toute ce qu'on appelle la culpabilité historique, la culpabilité coloniale qui embarque là-dedans. Puis tu sais, je parlais avec une anthropologue du collège d'Annecy parce qu'on fait une opération un peu de décolonisation du collège, puis elle en parlait bien. De la culpabilité historique puis coloniale. T'sais, à un moment donné, c'est pas parce qu'on dit que c'est passé ça qu'il faut que les gens qui vivent ici aujourd'hui se sentent mal. Il faut juste l'admettre qu'il s'est passé ça puis embarquer dans une démarche de réparation, non?
Oui, d'où l'importance du dialogue. C'est certain que le dialogue n'est pas encore à point, je dirais, entre les Premières Nations et la population québécoise.
Ben oui.
D'où l'importance, on parle tout des concepts de sécurisation culturelle, que ce soit évidemment à l'école, mais aussi en milieu de travail. Les Premières Nations sont quand même présents aussi en ville et ils reçoivent des services en ville. Donc, c'est extrêmement important d'en parler.
Oui, puis si on vient à l'enseignement, parce que je pense que c'est par la connaissance que ça va passer, tout ça, là, est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont issus des Premières Nations qui travaillent au Québec?
Je dirais que non. C'est certain que les enseignants des Premières Nations vont souvent retourner dans leur communauté enseignée.
OK. Puis je sais que vous avez proposé au ministère une 15e compétence là, pour intégrer des connaissances plus marquées des Premières Nations dans le champ d'action des profs. Ça n'a pas été retenu, ça, pour faire partie du référentiel de compétences des futurs enseignants. Pourquoi, vous pensez?
Pourquoi? Je ne sais pas. C'est tout le système qui doit bouger. Hein. Mm. C'est les compétences. On est rendu, je ne sais pas, à 14 compétences. On en avait 12 il y a quelques années.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait demander au ministère de l'Éducation. Mais nous, on pensait que c'était le moment idéal pour parler plus en profondeur du conflit sur les autochtones. Mm-hmm. Puis dans le fond, la 15e compétence qu'on proposait, c'est tout simplement de mettre en œuvre tout ce qui est recommandé dans les différents et dans plusieurs rapports, par exemple le comité vérité de réconciliation, l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées, mm-hmm. la commission Vient, la commission Royale sur les peuples autochtones. Il y en a eu des rapports, là. Puis souvent ce qu'on disait, c'est qu'il fallait éduquer, je vais le dire comme ça, là, la population québécoise en général, pour essayer de rapprocher les peuples et d'essayer de réduire, on va dire, les cas de racisme.
Ben oui, puis c'est le dialogue, puis l'éducation, puis l'enseignement, puis connaître notre histoire qui peut être réparateur, puis qui peut nous conduire à un endroit où, justement, les deux camps vont pouvoir discuter ensemble sans se sentir invalidé, attaqué. Puis ça se peut, ils l'ont fait au Collège d'Annecy. Bruno Rock, c'était super intéressant. Merci, qui est coordonnateur des projets éducatifs au Conseil en éducation des Premières Nations. Faisait référence à un texte qui a été publié dans le 24 heures. Allez lire ça, mieux enseigner l'histoire autochtone, c'est possible, c'est très intéressant.